Pialet, je suis conservateur en chef du patrimoine et directrice des archives départementales de l'Isère. Bien. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. En France, ce n'est que relativement récemment, je dirais fin des années 1970, qu'on s'est préoccupé de la sauvegarde, de la collecte et de la conservation des archives dites scientifiques. Donc on note un certain retard par rapport aux pays anglo-saxons où les établissements scientifiques s'étaient davantage préoccupés de leur archivage. Je voudrais citer le nom d'une archiviste qui a joué un rôle important dans ce domaine. C'est Madame Thérèse Charmasson, qui est conservateur en chef à la Cité des sciences et de l'industrie et qui a publié plusieurs articles et un guide des fonds d'archives des scientifiques en 2008. Donc on entend par archives scientifiques toutes les sources d'archives qui permettent d'étudier l'évolution générale des politiques de recherche et d'enseignement scientifique, l'évolution de telles disciplines scientifiques et l'apport des scientifiques au développement des connaissances. On pourrait schématiser en disant qu'il y a trois grandes catégories d'archives. En premier lieu, les archives de la tutelle de la recherche. Il s'agit essentiellement du niveau ministériel, dans lesquels on trouve des archives essentiellement administratives et dont le lieu, la destination finale en matière d'archivage, ce sont les archives nationales. En deuxième lieu, les archives propres des établissements de recherche. Là aussi, on y trouve des archives administratives, mais davantage d'archives scientifiques, les archives des laboratoires, des unités de recherche. Et là se situe donc la mise en œuvre des politiques de recherche. Et enfin, la troisième catégorie, donc les archives personnelles, si on peut dire, des scientifiques. Catégorie d'ailleurs qui est dont les contours sont souvent un petit peu tendent à s'effacer pour la période contemporaine, donc qui ont un fort contenu scientifique, mais qui, pour les scientifiques les plus anciens, pouvaient aussi contenir des éléments d'histoire familiale, des éléments en lien avec le relationnel de la famille et des éléments sur l'histoire des établissements de rattachement. Mais c'est une catégorie d'archives plus ancienne. Donc, nous ne faisons pas de distinction thématique, mais ce qui est fondamental, qu'il faut absolument comprendre dans le domaine des archives, c'est la notion de fond et la provenance des fonds. Nous, les archivistes, nous ne raisonnons pas à l'unité, à la pièce, forcément, au dossier, à la feuille, au registre, mais nous envisageons le patrimoine archivistique en termes de fonds, d'unité documentaire globale. Le fonds étant un ensemble de documents produits par un individu ou une institution, un service administratif, une entreprise, une association, etc. C'est une notion centrale qui a notamment pour conséquence que l'unité du fonds ne doit pas être détruite par des prélèvements ou des dispersions de documents en fonction notamment des supports ou des thèmes, en disant par exemple les photos vont dans telle direction, les plans advertent telle institution, les registres ici, les livres là, les liasses encore un autre endroit, ce qui amène inévitablement à la destruction du fonds et à un très grand amoindrissement de sa valeur intrinsèque. Autre élément absolument fondamental, c'est donc la notion de provenance, c'est-à-dire qui a produit les documents et quelle est la nature juridique, quel est le statut juridique de ce producteur d'archives. Parce que ça va déterminer la dévolution des documents. S'il s'agit, il y a deux grandes catégories, les archives publiques et les archives privées. Catégories qui sont définies dans la législation en vigueur et synthétisées dans le code du patrimoine. La notion d'archives publiques signifie que leur dévolution est encadrée par une réglementation et qu'on ne doit pas décider qu'il s'agisse de responsables d'établissements publics, de chefs de service d'administration, d'un particulier qui s'intéresse au patrimoine. On n'interfère pas dans la dévolution de ces documents qui est encadrée par une législation, une réglementation. Ce sont des archives publiques et voilà, on n'a pas à prendre des partis pris d'intérêt personnel sur ce genre de documents. Donc, je vous donne peut-être une vision très... très, comment dirais-je, sévère de l'archivistique, mais si nous n'étions pas là pour rappeler inlassablement un certain nombre de fondamentaux sur les archives publiques, il n'y aurait pas grand-chose dans les institutions dont nous sommes responsables, et par voie de conséquence, les chercheurs n'auraient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'en dépit de toute cette réglementation assez foisonnante, en dépit de tout le déploiement d'interventions que nous pouvons faire sur le terrain, il est certain que le bon archivage n'est pratiquement jamais spontané de la part des producteurs. Et que nous, les archivistes, nous sommes les interlocuteurs, les seuls interlocuteurs en matière d'archives publiques à devoir être consultés. Que nous n'émettons pas seulement des conseils et des avis, mais nous demandons à ce que la législation soit respectée. Et il est, assez difficile à dire, mais c'est vraiment la vérité. De nos jours encore, on assiste à des destructions de fonds d'archives patrimoniales de la part de personnes dont la situation de responsable devrait quand même les amener à avoir une attitude un peu différente. Donc, de nos jours encore, oui, des documents à valeur historique sont jetés à la benne, à notre insu, et sans beaucoup de regrets de la part de ceux qui font cela. C'est pas une vision alarmiste, c'est vraiment la réalité, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Certaines administrations sont moins sujettes à le faire, mais dans le cas des établissements publics en général, c'est une situation malheureusement que nous constatons régulièrement. Voilà. Donc, en France, les établissements de recherche et d'enseignement scientifique n'ont, d'une façon générale, pris conscience que très tardivement de ces réalités liées à l'archivage, réalités juridiques et réalités patrimoniales. Les archives ont d'abord été conservées pour les besoins de la bonne gestion courante des établissements. Cette notion, au fil du temps, s'étant un petit peu amoindrie, l'aspect patrimonial des archives n'a pas forcément pris le relais. Quant aux archives personnelles des scientifiques, souvent eux-mêmes ont eu tendance à considérer qu'il s'agissait d'archives strictement privées, alors que l'essentiel de leur activité s'était déroulé dans le cadre d'un établissement public, ce qui est quand même un petit peu aussi étonnant. Donc il y a eu de la part des archivistes des actions dès la fin des années 70. Il y a eu des journées d'études organisées par l'Association des archivistes français dès les années 80 pour essayer de faire le point sur la conservation de ces fonds d'archives dans les différents services d'archives publiques. Il y a, d'une façon générale, relativement peu de fonds conservés en archives départementales. D'une part, parce que jusqu'à l'après-guerre, Paris concentrait quand même énormément d'établissements scientifiques, que la province était un petit peu sous-représentée. Mais, en toute logique, on devrait trouver dans tous les services d'archives départementales des départements chef-lieu de région ou dans les départements pourvus d'universités créées dès le début du XIXe siècle, des fonds d'archives de ces universités, des établissements qui leur étaient rattachés. Dans le cas des archives de l'Isère, nous sommes heureusement un lieu de conservation pour 5 ou 6 fonds d'archives extrêmement importantes. Mais ce dont je vais parler maintenant ne doit pas cacher la réalité archivistique qui est quand même, je pense, sans tenir des propos trop pessimistes, la disparition d'archives historiques que nous devons maintenant acter. Donc ce n'est pas une raison pour se limiter à ces propos. Il faut sauver, collecter ceux qui restent encore dans les caves qui, comme le savent les Grenoblois, sont sujettes à de fréquentes inondations. Donc quand ce ne sont pas des prédateurs humains qui s'en prennent aux archives, l'eau demeure à égalité avec l'homme le principal ennemi de la conservation des documents papier qui sont par essence extrêmement fragiles. Donc les archives départementales de l'Isère sont tout de même riches en archives d'établissements scientifiques et en archives d'entreprises, ce qui est évidemment lié à l'histoire du développement de la recherche et de l'industrie en Isère et surtout à Grenoble. Éric Robert développera tout à l'heure ce propos, qui remonte maintenant, en ce qui concerne les établissements de recherche et d'enseignement, à un peu plus de 100 ans. Tout à l'heure, un intervenant a dit que c'était essentiellement lié aux années 60 dans le domaine de la physique essentiellement, mais il y a maintenant plus de 100 ans qu'un enseignement scientifique et technique s'est mis en place à Grenoble du fait des liens très étroits entre la recherche et l'industrie qui étaient déjà très importants la veille de la Première Guerre mondiale. La période de guerre ayant ensuite constitué une accélération assez extraordinaire dans ces deux domaines. Donc cela fait l'objet de recherches historiques qui sont en cours dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc je vous donne un rapide aperçu des principaux fonds d'archives que nous conservons actuellement. Tout d'abord les archives du laboratoire d'électrostatique et de physique du métal, qui est un ensemble très complet, puisqu'il contient les documents sur la création et le fonctionnement du laboratoire depuis 1940, donc des correspondances, des comptes rendus de comités de direction, des rapports d'activité, des dossiers de colloques et de congrès, et c'est dans ce fonds que se trouvent de nombreux tirés à part de Louis Nel et d'autres chercheurs. C'est le fonds dénommé 6888W chez nous. Donc tous ces fonds sont munis d'inventaires qui sont disponibles dans notre salle des inventaires et un jour prochain, j'espère, en ligne sur notre site internet. Nous avons ensuite les archives de Louis Veil et du Centre de recherche sur les très basses températures, donc créé en 1947. Nous avons également eu un versement très important de la présidence de l'INPG, qui représente tout de même 40 mètres linéaires, donc c'est un gros fonds d'archives, dont les plus anciens documents datent des années 1930. Donc des dossiers, des conseils scientifiques et d'administration, ce qui est quand même vraiment le cœur, le noyau archivistique, tout ce qui a trait à la gestion de l'Institut, les relations avec les différentes écoles qui composent l'INPG, et les relations avec d'autres centres de recherche à l'extérieur. Donc, je ne sais pas si... Enfin, j'espère en tout cas qu'on peut encore retrouver, disséminer dans différents lieux les documents les plus anciens, qui devraient remonter tout de même au début du XXe siècle, liés notamment à l'Institut d'électrochimie de Grenoble. En ce qui nous concerne, nous avons des cours donnés notamment par Ernest Dussauget dans un fonds d'archives privées, donc le fonds 263J, des cours qui ont été donnés entre 1897 et 1905, et dans ce fonds, nous avons de très nombreuses brochures et ouvrages sur l'aluminium en particulier. Mais les archives de l'Institut d'électrochimie, soit qu'elles aient existé dans les murs de l'établissement, soit qu'elles se trouvent dans l'établissement de tutelle, donc la faculté des sciences à l'époque, nous n'avons quasiment rien. Parmi donc toujours les principaux fonds d'archives conservés, les archives de l'Institut d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble, donc l'IMAG, pour la période 1949-1983, un très très beau fonds, et dans le prolongement, le fonds Kunzmann, le versement 7764W, aussi un fonds extrêmement riche. Dernière entrée aux archives départementales qui remonte à cet été, dans un autre domaine qui est celui de la géologie. Les archives des géologues alpins, donc du moins ce qui reste des archives de l'Institut de géologie alpine, fonds d'archives malheureusement démembrés, et donc nous avons pu en sauvegarder une partie qui est entrée aux archives départementales cet été après bien des vicissitudes, les déménagements étant toujours particulièrement néfastes au fonds d'archives. Donc on trouve dans cet ensemble à la fois des archives administratives et des archives des différents géologues, des différentes générations de géologues qui se sont succédés à Grenoble. Donc c'est un très, très joli ensemble qui est en cours d'inventaire, mais qui bénéficie déjà d'un ce qu'on appelle un récollement, c'est-à-dire déjà une description sommaire qui est suffisamment avancée pour que les chercheurs puissent en prendre connaissance. Nous trouvons aussi des éléments sur l'histoire technique dans certains fonds d'archives d'entreprise qui sont une catégorie d'archives privées, donc là on passe dans le domaine des archives privées, qui sont particulièrement bien représentées aux archives départementales de l'Isère, puisque le service que je dirige a été pionnier en la matière dès les années 60. Et je ne citerai que deux exemples de fonds particulièrement riches, donc les archives des forges d'Alvar et les archives des établissements Bouchaillet-Vialet. Donc même si, d'une façon générale, dans les archives d'entreprise, la partie très technique n'est pas forcément toujours présente dans ce qui rentre dans les services d'archives, pour différentes raisons. Il y a aussi le côté du secret industriel et commercial qui fait que ces catégories de documents ne sont pas forcément toujours très, très représentées. Donc les archives d'entreprise rentrent parfois du vivant de l'entreprise, mais le plus souvent, malheureusement, au moment où l'entreprise est... en voie de disparition ou déjà morte. Et donc, de la part des archives, c'est souvent des actions commando dans des locaux abandonnés, parfois déjà squattés, entreprises qui parfois comportent une certaine part de risque. Je ne raconterai pas ce matin des anecdotes, mais qui sont bien réelles. Donc souvent, ce sont des actions de sauvegarde, ce qui signifie que toutes les catégories de documents qui font partie des archives d'entreprise dans l'idéal ne sont pas forcément transmises aux archives. Et il ne s'agit pas forcément de catégories d'archives très volumineuses. Mais là encore, le cœur, le noyau de ces fonds d'archives, ce sont des décisions, c'est pas forcément, on distingue des archives de gestion, si vous voulez, des archives de décision. Et les archives de décision, qu'il s'agisse de conseils d'administration, de conseils d'établissement, tout ce qui est rapport d'activité, ça ne représente pas un gros volume, c'est un très faible volume, mais c'est vraiment là qu'on trouve des grandes densités d'informations. Et ces archives-là, en toute logique, dans tous les établissements, elles devraient être conservées correctement, relativement proches du pouvoir de direction, dans des secrétariats de direction, dans des lieux qui sont quand même, c'est pas des locaux d'archivage, c'est très proche des instances de direction. Et là, il y a un phénomène qui joue un petit peu, qui joue beaucoup en défaveur des archives, on en parlait tout à l'heure avec Eric Robert, c'est la disparition souvent des secrétariats de direction. Et la dilution des responsabilités que les secrétariats avaient en matière d'archivage courant des documents, d'une part, et aussi le turnover de ces fonctionnaires. On n'a plus affaire à des personnes qui étaient en poste, qui restaient en poste pendant toute leur carrière et qui finalement faisaient vraiment jouaient un très grand rôle dans la conservation des archives courantes des établissements. Souvent, de par l'évolution des métiers, de par la réduction aussi des moyens humains, eh bien, tout cet aspect-là a été abandonné et a contribué à une dégradation de l'archivage. Les déménagements de locaux, le turnover des personnels sont des facteurs qui sont vraiment très négatifs en matière de conservation d'archives. Donc voilà, grosso modo, brosser un petit peu le tableau de l'archivage. Il y a, d'une façon générale, en ce qui concerne l'Isère, une mauvaise situation d'archivage en ce qui concerne les universités, particulièrement l'université Joseph Fourier. Nous avons fait de nombreuses actions de sensibilisation qui sont demeurées un petit peu lettres mortes. Donc, s'il y a des personnes dans la salle qui ont encore un pouvoir en la matière, qu'elle n'hésite pas à me contacter, parce que je crois que là, il faudra se livrer aussi à des actions commando pour essayer de retrouver ce qui subsiste des documents au gré des différents déménagements et évolutions des organigrammes. Donc, avant même d'envisager des actions de valorisation, il faut commencer par le point premier de logique, c'est-à-dire la sauvegarde et le versement de ces archives publiques aux archives départementales. Voilà. Je vois que
le maître du temps se redresse, je suis désolée, voilà. Pour que tous les intervenants puissent discuter.
Et je vous remercie de votre attention.
Merci à vous.